Radio Kapi.
Bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal au micro Lievine Bouinga. D'abord les titres. Dialogue interactif renforcé sur la situation des droits humains en RDC à Genève. La ministre congolaise des droits humains loue des avancées notables enregistrées en dépit de la guerre de l'Est du pays. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, elle, se félicite de l'appui continu du Conseil des droits de l'homme aux autorités pour appuyer le travail réalisé en matière des droits de l'homme en RDC. Suite du dossier du bateau MV Merdi, les familles des victimes du naufrage du 3 octobre se préparent à enterrer les leurs ce mercredi 9 octobre, retombée de la rencontre entre les ministres de l'Intérieur et sa collègue des Affaires sociales avec les familles des victimes. Notre invitée, c'est Dr Anne-Marie Toumba, la directrice de programme national santé de la reproduction à UNFPA. Elle va nous parler de l'installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema. Encore une fois, bonjour. En termes des droits de l'homme, des avancées notables ont été enregistrées en dépit des défis immenses, au premier rang desquels se place la guerre meurtrière dans la partie est du pays. Cette déclaration est celle de Madame Chantal Chambou-Mwamvita, ministre des droits humains, au cours du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo ce mardi à Genève. Elle fait remarquer que son ministère a lancé des enquêtes sociales dans le but d'identifier les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés par rapport à leurs droits fondamentaux. De son côté, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est félicitée de l'appui continu du Conseil des droits de l'homme aux autorités pour appuyer le travail réalisé en matière de droits de l'homme en RDC. Le condensé de cette séance avec vous, Blaise Makassi.
Face aux violations graves des droits humains occasionnées par des conflits qui sévissent dans la partie est du pays et face aux défis financiers et sécuritaires, les autorités congolaises n'ont ni capitulé ni rangé les outils de protection des droits humains, affirme Chantal Chambou. Son ministère travaille sur l'implémentation de la justice transitionnelle, l'implantation et la redynamisation des divisions provinciales des droits humains, la défense des intérêts de la RDC devant les instances régionales et internationales, la mise en œuvre et le suivi des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la RDC. Elle fait remarquer le fait selon lequel les différents rapports mettent en évidence les progrès accomplis par la RDC en matière de protection et de la promotion des droits humains. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est félicitée des efforts régionaux en cours et la signature de l'accord du cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda. La MONUSCO continuera de fournir son appui aux facilitateurs et à la SAMI DRC, aux signataires des accords régionaux, mais aussi à la création d'un cadre de respect des droits de l'homme, d'où la nécessité de préserver la liberté de mouvement de la MONUSCO pour qu'elle applique son mandat visant la protection des civils, l'alerte rapide, les mécanismes de riposte et la surveillance des droits de l'homme.
Retour au pays, plus de 250 prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi retrouvent l'ère de la liberté. Ils sont relaxés à partir de ce lundi. La cérémonie était présidée par le ministre d'État et ministre de la Justice. L'objectif est de désengorger les maisons carcérales et aussi de lutter contre les arrestations arbitraires, explique Constant Mutamba. Il ajoute que la prison n'est pas faite pour n'importe quelle infraction, car il y a des faits pour lesquels quelqu'un peut être condamné à de peines alternatives sans forcément faire la prison. Un reportage signé Jean Gandou.
Ce sont des prisonniers enthousiasmés qui attendent le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba. Après avoir visité les différents pavillons, la cuisine et les potagers, œuvre des prisonniers, il s'est présenté devant les pensionnaires de cette maison carcérale à qui il a expliqué la raison de sa présence. C'était avant que la directrice de la prison ne procède à l'appel nominal des prisonniers à libérer. Ce sont principalement ceux qui ont déjà accompli les trois quarts de leur peine et ceux qui sont gravement malades. Ne peuvent pas bénéficier de cette libération conditionnelle. Ceux qui sont poursuivis pour détournement des fonds, viol, association des malfaiteurs, mouvement insurrectionnel et vol à main armée. Parmi les détenus malades libérés, il y en a qui ont indiqué au ministre qu'ils sont là depuis de longues années mais n'ont jamais été jugés. Témoignage de l'un d'entre eux.
J'ai fait ici 3 ans sans avoir été jugé en disant que je suis en train de me promener sans des identités. On m'a demandé 300 $, je n'avais pas. On m'a jeté ici jusqu'à aujourd'hui.
Notons que la prison de la Cassapa a une capacité d'accueil de 680 pensionnaires, mais avant la libération de ce lundi, elle en comptait 2790. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Judith Suminoua à la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne. La première ministre participe à ses assises depuis hier lundi. Pour la chef de l'exécutif de la RDC, le cobalt et le lithium sont très utilisés dans la production des batteries. Ce sont des éléments qui ont une importance capitale pour l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne. La chef du gouvernement de la RDC envisage des partenariats économiques dans le secteur de l'énergie verte. Écoutez la représentante du chef de l'État congolais à ce sommet dans cet extrait proposé par Blaise Makassi.
En fait, c'est une première conférence qu'organise l'Allemagne ici à Hambourg, qui est une ville économique. Et il s'agit pour les Allemands de pouvoir voir comment ils peuvent renforcer leurs relations économiques avec l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts et particulièrement en RDC avec près de 60%. Nous avons un certain nombre de minerais stratégiques, comme par exemple le cobalt en RDC, où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ce minerai. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, pour produire des batteries. Donc, ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne. Et donc, c'est une possibilité de discuter, de voir comment on peut ensemble construire des partenariats d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial.
Je vous signale que cette conférence présidée par le chancelier allemand Olaf Scholz connaît la participation d'une importante délégation de chefs d'État et hauts dignitaires de plusieurs pays. Suite du dossier du bateau MV Merdi, les ministres de l'Intérieur et sa collègue des Affaires sociales étaient avec les familles des victimes. Ces familles du naufrage du 3 octobre sur le lac Kivu se préparent à enterrer ce mercredi 9 octobre leurs proches dont les corps ont été repêchés jusqu'ici. C'est l'une des retombées de cette rencontre. Cependant, plusieurs autres familles qui n'ont pas encore retrouvé les corps les corps de leur famille restent dans le désarroi. Certaines ont décidé de lever les deuils alors que d'autres continuent à attendre impatiemment les recherches en cours dans le lac Kivu. Sifa Magou revient sur certaines dispositions prises au cours de cette réunion.
L'un des membres du comité des victimes est revenu sur l'accord avec les autorités nationales et locales. Les deux parties ont convenu que l'enterrement des victimes, dont les corps ont été formellement identifiés, s'organise ce mercredi à Minova pour les familles qui ont opté l'enterrement dans leurs villages respectifs et pour celles qui ont choisi Goma au cimetière de Macao Génocoste. Les familles concernées sont appelées à se présenter aux différentes morgues ce mercredi matin. Toutes les dispositions de ces voyages aller-retour sont déjà prises par les autorités. Toutefois, des inquiétudes demeurent au sein des familles qui n'ont pas jusqu'ici retrouvé le corps de leurs proches. Pour le moment, elles sont appelées à la patience en attendant l'aboutissement des recherches en cours. Par ailleurs, certaines familles fustigent le fait que certaines décisions soient prises par les autorités sans tenir compte de la volonté des familles. Notez qu'une autre réunion restreinte est en cours ce mardi pour finaliser toutes les dispositions et préoccupations des familles. Goma Sifa Maguro, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, la situation restait tendue toute la matinée de ce mardi dans le quartier Majengo au nord de Goma et en groupement Munigi au sud du territoire de Nyiragongo. Deux autres personnes ont été tuées dans la soirée d'hier lundi dans la zone. Et ce mardi, plusieurs jeunes sont descendus dans les rues, barricadant les artères principales pour contester, selon nos sources, la hausse de la criminalité dans la zone.
Les activités socio-économiques ont repris normalement ce mardi à Beni, malgré la deuxième journée de paralysie décrétée par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression actifs dans la ville. Bien que quelques incidents aient été signalés dans la partie ouest, les forces de l'ordre ont été déployées dans les zones sensibles pour prévenir d'éventuels troubles. Marc Marofimbo nous décrit la situation.
Les activités socio-économiques fonctionnent normalement ce mardi dans la ville de Beni, au deuxième jour de la paralysie décrétée par les mouvements citoyens et groupes de pression. Écoles, marchés, boutiques et commerces sont tous ouverts. Même les établissements commerciaux fermés lundi sur ordre du maire ont rouvert ce mardi après une concertation entre la Fédération des entreprises du Congo FEC et les autorités locales. Un dispositif de sécurité renforcé est visible dans les zones à risque pour éviter toute perturbation de l'ordre public. Cependant, dans la partie ouest de la ville, notamment à Kangaimbi, quartier Ngongolio, des jeunes ont encore érigé des barricades tôt ce matin. Une altercation entre ces jeunes et de passants a fait 2 blessés et des motos ont été endommagées. Rappelons que la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression avait appelé à 2 jours de grève pour exiger la levée de l'état de siège et la libération des 6 acteurs politiques et leaders communautaires incarcérés à la prison centrale de Mounzenze à Goma. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
83e prorogation autorisée à l'Assemblée nationale hier lundi à Kinshasa. Cette nouvelle prorogation est confirmée malgré les bilans négatifs dressés par les députés nationaux élus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Les élus de ces 3 provinces estiment que l'état de siège a démontré ses limites et n'a pas sa valeur d'être. Il ne s'arrête pas là, il propose que la gestion de ces 2 provinces soit retirée des mains des militaires afin qu'ils se concentrent uniquement aux opérations militaires. Michel Kifindangoy.
Décrété par le président de la République le 21 mai 2021, l'état de siège n'a pas pu pacifier la partie est du pays et a simplement échoué, estime l'élu de Boutembo, Crispin Bindoulé.
Le gouverneur, on l'a nommé à part l'ordonnance. On attribue les opérations, l'état-major général retire les opérations dans ses attributions, alors il devient comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif.
Ces dirigeants passent à côté de leur mission principale et se sont plutôt lancés en politique, ajoute l'élu de Bounia, Gratien Irachan.
Les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens, des militaires qui ont des militants. Il y a une radio qui existe, des radios de propagande politique.
Attentif aux interventions des élus, le président de l'Assemblée nationale exprime son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes congolais de l'Est suite à cette guerre injuste. Vital Kamere.
L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer.
Vital Kamerhe annonce une mission d'enquête parlementaire pour évaluer l'état des sièges avant de décider de s'allever.
Retour au calme au village Zongwe, à 40 kilomètres de Kalemi, ce après les affrontements entre les FRDC et le groupe armé Biloze Bishambuke dans cette partie de la province du Tanganyika. Information livrée hier lundi devant la presse par le commandant de la 22e brigade FRDC des opérations Usalama dans le Tanganyika. Les habitants qui ont fui le village commencent à retourner, indiquent certaines sources. D'autres précisions avec Paulin Munanga.
Le groupe armé Biloze Bishambuke a fait incursion samedi dernier au village Zongwe. D'après certaines sources, les assaillants, 100 au total, étaient munis de quelques armes à feu et de plusieurs flèches. Les mêmes sources rapportent que les militaires ont capturé des éleveurs et volé leur bétail. Ils se sont affrontés avec les FRDC, mais difficile d'avoir les bilans. Ces affrontements ont provoqué les mouvements de la population vers les villages Tabakongo. Pour les commandants de la 22e brigade des FRDC des opérations Usalama, les assaillants ont été repoussés et le calme est revenu dans la zone. Général Fabien Dunia Kashindi.
Les forces armées ont déjà pris totalement le contrôle du village. Et vous savez que les attaques de Zongwe n'ont pas dérangé la ville de Kalemi. Le petit mouvement de la population qu'on avait prédit s'est arrêté rien qu'au niveau des tabacs. Et Kalemi n'a pas connu de mouvement de la population. Le chef d'état-major général était passé même ici dans ce bureau pour nous donner des directives claires afin que le calme règne et le calme régnera.
Les miliciens du groupe armé Biloze Bishambuke sont très actifs dans plusieurs carrières minières dans les territoires de Kalemi où ils pillent de l'or, rapportent plusieurs sources. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Beltexco ferme ses portes à Kananga et oui, cette société, premier grossiste en plusieurs produits manufacturés, ne va plus exister dans cette province du Kasaï central. Parmi les raisons de cette fermeture, il y a les difficultés pour Beltexco d'importer ses marchandises. Elle n'arrive pas à les acheminer vers Kananga à partir du port d'Ilebo par manque de locomotives. Plusieurs produits qui traînent expirent et sont jetés, occasionnant ainsi des pertes énormes pour la société. Mis au courant de la situation, la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, s'inquiète de cette mesure. Le vice-président provincial de la FENAPEC, Kasaï Central, s'indigne car beaucoup d'opérateurs économiques évoluant à Kananga se ravitaillaient auprès de ce grand fournisseur. Jean-Pierre Kamwabo sur des propos recueillis par François Kadima.
Ils ont presque déjà tout vidé dans leur dépôt. Ils sont en train de partir et c'est une inquiétude pour nous parce que nous savons l'importance que la province avait avec la présence de Beltexco. Beaucoup de nos membres sont ravitaillés, sont alimentés par les grands fournisseurs qui est Beltexco. Vous savez que Beltexco, c'est un grand fournisseur. Ils arrivent à bien alimenter nos PME et c'est une inquiétude parce qu'il y aura beaucoup de ruptures de stocks et c'est une inquiétude pour la province parce qu'hier, c'était l'Unibra qui était parti, qui avait délocalisé son industrie ici. Nous, on en a payé des conséquences. Aujourd'hui, c'est Beltexco. Demain, ça sera des autres entreprises. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la province. Le gouvernement au niveau national doit être attentif. Nous étions surpris d'avoir même que Beltexco avait saisi les ministères et consorts et ils ont même eu la bénédiction de ces ministères-là.
Ouverture des travaux de la mission économique et commerciale belge en RDC hier lundi à Kinshasa. La Belgique et la RDC s'engagent donc à renforcer leurs liens économiques, précisément dans le secteur de la construction. Ceci au regard de nombreux défis liés aux infrastructures routières, immobilières et énergétiques auxquels font face la ville-province de Kinshasa, mais aussi des provinces minières du pays et celles affectées par les problèmes sismiques. Cette collaboration passe par l'échange des opportunités entre les investisseurs de ces deux pays. Tout de suite, l'importance de cette collaboration avec la conseillère économique et commerciale de l'ambassade belge en RDC. Les propos de Micheline Vermeulen sont recueillis par Miradi Fouengi.
Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un secteur clé pour le développement du pays, la construction. La RDC connaît une expansion significative dans le secteur de la construction, reflétant son urbanisation croissante et la demande pour des infrastructures de base. L'expertise belge dans le domaine de la construction représente un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo, notamment dans le contexte de son développement économique et social. Cette expertise dans le secteur de la construction repose également sur une combinaison de savoir-faire technique, d'innovation et d'adaptation aux défis modernes, tels que la durabilité, la technologie et l'urbanisation. Grâce à une forte capacité d'adaptation et une réputation d'excellence, les entreprises belges continuent d'être des acteurs influents dans le secteur de la construction au niveau international. La collaboration avec la Belgique offre des opportunités stratégiques pour accélérer le développement de la RDC.
Signalons que plus de 25 entreprises venues de la Belgique se sont ajoutées à d'autres déjà actives sur le sol congolais depuis plusieurs années. Des institutions congolaises, dont le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, ainsi que la Fédération des entreprises du Congo et l'Ordre des architectes prennent part à ces travaux. La clôture est prévue le jeudi 10 octobre.
Actualité internationale.
À Madagascar, les pénuries d'eau s'aggravent dans la capitale. Depuis une semaine, les nuits à Tananarive sont rythmées par les grondements d'une population en colère, exaspérée par le mépris et l'inaction des autorités et lasse de passer de longues heures dans le noir à attendre parfois en vain l'eau au pied des bornes. Dans plusieurs quartiers, le précieux liquide n'est pas coulé depuis un an dans les maisons et se fait rare même aux fontaines publiques.
L'invité.
Notre invité, c'est le docteur Anne-Marie Ntumba, directrice de programme national santé de la reproduction à UNFPA Kinshasa. Elle nous parle de l'installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema. Elle s'entretient ici avec Florence Kiza Lunga.
Docteur Anne-Marie Toumba, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province d'Imanema. C'est quoi son objectif?
Merci beaucoup. L'objectif de l'installation de ce comité, c'est pour faire la promotion des activités de la planification familiale. Faire la promotion des activités familiales, c'est pouvoir donner le choix aux hommes, aux filles et aux femmes du Manima de pouvoir choisir parce que leur destin leur appartient et de pouvoir surtout participer au développement de la province. Un couple qui fait de la planification familiale choisit le moment où il doit faire les enfants, le nombre d'enfants à faire, quand, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de décès dans la province. Les décès sont plus dus à des grossesses trop nombreuses et des grossesses trop rapprochées ou des grossesses qui arrivent chez des jeunes filles avant 18 ans et tout ça, ça engendre que le corps ne peut pas s'adapter et ça amène la femme à la mort. Et une femme qui va accoucher pour donner la vie, c'est une vie perdue pour rien. Donc c'est vraiment contre ça qu'on est en train de se battre pour aider les femmes parce qu'elles ne savent pas. Il existe des méthodes naturelles et des méthodes modernes pour faire la planification familiale. Et ça, les hommes doivent bien les accompagner. Nous avons eu un aura très positif avec les autorités de la province. Tous les ministres que nous avons rencontrés, ils sont tous très, très soucieux de la santé de la population du Maniema et ils veulent à travers le travail que ce comité composé des ministères santé, plan, budget, éducation, genre, ainsi de suite, vont faire en compagnie des partenaires qui aident la province. Ils veulent vraiment aider la province à ce que ça soit fini les décès des femmes pour les causes d'accouchement.
À part la promotion de la planification familiale, quel sera le rôle de ces comités installés?
C'est sensibiliser aussi, promouvoir, sensibiliser, donner l'information. Et puis après, le ministère, à travers le gouvernement, qui va donner les moyens aussi. Ils ont promis fermement de donner les moyens de pouvoir former les gens qui donnent la planification familiale, renforcer les capacités des prestataires. Ils vont approvisionner, ils vont même créer une ligne budgétaire qui va faire qu'on puisse, dans la province, s'approvisionner aussi. Ils vont même aider aussi certains produits qui sont déjà disponibles à Kinshasa, qui ne sont pas arrivés ici, tout simplement parce qu'il manque des moyens de transport, à ce que ces produits puissent arriver ici et puis que ça arrive vraiment dans tous les 18 zones de santé, dans tous les centres de santé qui existent au Maniema, afin que quand la personne a besoin, qu'elle puisse trouver, qu'elle ne puisse pas avoir un besoin qui ne soit pas satisfait.
En ce qui concerne le mode de fonctionnement, qui va assurer les frais de fonctionnement pour ces comités? Parce que quand vous dites il faut les acheminements des médicaments, il faut ceci, tout ça se demande des moyens, mais aussi qui va à chaque fois doter des médicaments à ces comités?
Le gouvernement national achète des médicaments pour le pays et quand ils achètent les médicaments, dernièrement, nous, on a pu en acheminer un peu jusqu'ici au Maniema. Donc le gouvernement national achète et puis les gens aident à amener jusqu'ici dans la province. Et puis les partenaires aussi qui sont dans la province, nous avons le Fonds des Nations Unies pour la population qui travaille aussi sur les questions de santé, des droits sexuels et reproductifs. Ils vont aider aussi le SANRU, tous les partenaires qui travaillent et nous allons même chercher d'autres partenaires pour qu'ils essayent de venir aider la province qui a déjà la volonté affichée. On sait que c'est dans un contexte de peu de moyens. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont la volonté. Ils mettront le peu de moyens qu'ils pourront, mais il y a les partenaires qui vont nous aider aussi à mettre les moyens.
Alors, qu'est-ce que la coordination nationale attend de ces comités récemment installés?
Le comité national attend que le comité provincial se mette à l'œuvre pour pouvoir accompagner la population de la province à connaître leurs droits sexuels et reproductifs, à les utiliser, à pouvoir choisir les méthodes de contraception modernes qu'ils veulent. Parce que quand on a bien fait sa contraception, on ne va plus être exposé aux problèmes de mortalité maternelle pour des causes évitables. La mortalité néonatale et maternelles sont très élevées dans la province. Alors, comme la planification familiale, c'est une des stratégies qui aide à réduire jusqu'à 30%, c'est pour ça qu'on a pensé, on a discuté et les autorités de la province sont bien d'accord d'accompagner, qu'ils vont faire le nécessaire pour que la population connaisse ses droits, qu'ils donnent aussi le peu de moyens qu'ils peuvent donner et le gouvernement national aussi donne. Et les partenaires qui nous accompagnent dans cette matière-là des droits sexuels et reproductifs, parce que les partenaires sont toujours encouragés quand ils voient que le gouvernement aide lui même met la main à la pâte et les partenaires vont faire ça de cœur joie.
Docteur Anne-Marie Toumba, merci.
Merci beaucoup madame la journaliste.
Voilà, c'est avec ces conseils du docteur Anne-Marie Toumba que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Martha Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Dieudonné Nyangasa.